L'Esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, Béatrice Giblin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde, Thierry Pech, directeur général de la fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser aux élections générales au Royaume-Uni, élections anticipées, convoquées par Theresa May le 18 avril dernier, afin de consolider sa position au Parlement pour négocier un Brexit dur face à Bruxelles. Ces élections se sont tenues jeudi. Avec 318 députés, les conservateurs ont perdu une douzaine de sièges et leur majorité absolue, alors que les travaillistes ont remporté 32 sièges supplémentaires, comptant désormais 262 députés. Viennent ensuite les indépendantistes écossais du SNP avec 32 sièges et les libéraux-démocrates en légère hausse avec 12 élus. Outre le Brexit, de nombreux thèmes se sont imposés durant la campagne, tels que la santé, la protection sociale ou encore la sécurité. Alors que la campagne de Jeremy Corbyn a été saluée, celle de la Première ministre a été définie comme désastreuse, à mesure que l'écart entre les deux partis n'a cessé de se réduire dans les sondages. Les attentats de Londres et Manchester ont tout particulièrement suscité des critiques à l'encontre de Theresa May et de la politique d'austérité menée alors qu'elle était ministre de l'Intérieur entre 2010 et 2016. Son projet de lutte contre le terrorisme, qui prévoit entre autres d'alourdir les peines de prison, de faciliter les expulsions et de renforcer les mesures d'assignation à résidence, a également été pointé du doigt par l'opposition, alors que la Première ministre a exprimé son souhait de changer les lois sur les droits de l'homme, si ces dernières venaient à freiner la lutte antiterroriste. Tandis que le projet conservateur de modification du système de financement des soins pour les personnes âgées abandonné depuis a également concentré les critiques, Jeremy Corbyn a présenté un programme très ancré à gauche entre nationalisation de l'eau, de la poste, du rail, réduction des inégalités, augmentation des impôts pour les plus fortunés, investissement public ou encore suppression des frais d'inscription à l'université. Au lendemain des résultats, de nombreuses voix, dont celle du leader travailliste, se sont élevées pour réclamer la démission de Theresa May, pendant que la livre sterling décrochait de près de 2%. Alors que les libéraux-démocrates ont exclu toute possibilité de coalition avec le Labour, Theresa May a annoncé la composition d'un nouveau gouvernement et son alliance avec le Parti unioniste démocratique, une formation extrémiste protestante d'Irlande du Nord. Grâce aux 10 sièges apportés par cette alliance, Theresa May espère mener à bien les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Les dirigeants de l'Union craignent pourtant que le revers électoral subi par les conservateurs ne retarde, voire n'entrave, les négociations dont le début est prévu le 19 juin. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Ben, écoutez, une première remarque est que dans ce pays d'outre-Manche, inventeur du soccer, c'est-à-dire du football, les premiers ministres conservateurs ont quand même développé un art exceptionnel de marquer des buts contre leur camp. Et qu'ils ont porté cet art vraiment à la perfection. Monsieur Cameron avait commencé en proposant, à l'occasion des élections de 2015, d'organiser un référendum sur le Brexit, qu'il aurait pu probablement différer, qu'il n'était pas obligé de mener, mais qui était destiné dans son esprit à résoudre les contradictions internes des Tories sur l'Europe, et qui, au lieu de cela, a donné le résultat tout à fait inverse. Il a donné d'abord un résultat négatif en faveur du Brexit, il a ruiné la propre carrière politique de M. Cameron, qui a dû disparaître, et au lieu de résoudre les contradictions des conservateurs sur l'Europe et le Brexit, il les a exacerbés. Donc ça, c'était quand même un résultat extraordinaire. Et Mme May vient de battre cette performance, pourtant déjà remarquable, en convoquant avec 3 ans d'avance, 3 ans, des élections en un moment qu'elle jugeait opportun parce que les sondeurs donnaient 20 points d'avance aux conservateurs sur le parti travailliste et où elle s'apprête à ouvrir les négociations sur le Brexit et sur un hard Brexit sans doute avec l'Europe. Elle voulait donc renforcer sa position de façon à aborder, dans une position améliorée, les conversations à Bruxelles. Au lieu de ça, on voit le résultat. Elle a mené, vous l'avez dit, une campagne désastreuse que beaucoup de ses collègues conservateurs ont trouvé d'une pauvreté affligeante. Elle n'a jamais réussi à mettre le pinceau du projecteur dans le débat sur le Brexit, dont on n'a pratiquement plus parlé, comme s'il y avait une fatigue sur ce sujet. Elle a mis sur la table des propositions qui ont été catastrophiques et elle a compromis ses propres chances de survie. Alors je sais bien que nous avons nous-mêmes connu des initiatives du même genre en 1997 par exemple et qu'il est peut-être malvenu de ricaner, mais je ne ricane pas, je déplore en fait le fait que, en Européen que je suis, je vois bien que nous allons avoir face à nous, pour négocier dans les mois qui viennent, une Grande-Bretagne divisée, encore plus qu'avant, un leadership affaibli, alors qu'il n'était déjà pas très fort, mais qu'il va être incontestablement davantage affaibli, et une ligne de négociation qui est tout à fait indécise. Parce que, et c'est la deuxième remarque, cette contre-performance extraordinaire des travaillistes, qui ont perdu la majorité absolue et qui doivent avoir recours... Des conservateurs, excusez-moi, pardon de ce lapsus. Cette contre-performance absolue des conservateurs qui ont maintenant recours à une coalition avec les unionistes irlandais, dont on ne sait pas du tout d'ailleurs si elle va aboutir vraiment à quelque chose, ouvre une période d'instabilité considérable au Royaume-Uni. Les conservateurs auront du mal à se remettre de l'échec qu'ils viennent de subir. 8 ministres du gouvernement sortant ont été battus et ont perdu leur siège. Madame May va donc devoir remanier en profondeur son gouvernement qui déjà n'était pas terriblement uni. Le leadership qu'elle exerce va être très affaibli. Il n'est pas du tout sûr, d'ailleurs, qu'elle puisse conserver pendant longtemps la position qui est la sienne aujourd'hui. Et beaucoup de spécialistes de la politique britannique font ressortir le fait que, dans l'histoire du Royaume-Uni, les gouvernements minoritaires ont souvent eu une histoire très brève et très, très malaisée. Je sais que M. Major a pu gouverner pendant presque 5 ans avec un gouvernement minoritaire, mais d'autres n'ont duré que 3 mois ou 6 mois. Et au Royaume-Uni même, ces 2-3 derniers jours, on évoquait la possibilité que de nouvelles élections soient appelées dans un avenir très proche, c'est-à-dire peut-être à l'automne ou cet hiver, si véritablement la Chambre actuelle se révèle ingouvernable. Alors, comme le Parti travailliste, lui, pour le coup, reprend des couleurs et que M. Jeremy Corbyn, qui était très contesté dans son propre camp, sort avec une stature grandie de l'épisode électoral, tout est possible au fond. Mais la première question qu'il faut que nous nous posions, c'est de savoir quelles sont les conséquences pour nous et quelles sont les conséquences pour la négociation Brexit. Parce que je rappelle une fois de plus que la négociation Brexit n'a pas commencé. Ça fait 1 an que nous en parlons, mais c'est absolument, nous sommes, je l'ai déjà dit, je me répète, je sais, mais nous sommes absolument dans une situation qui me rappelle la drôle de guerre en 1939. La guerre avait été déclarée, mais on n'avait pas tiré un coup de fusil jusqu'en mai 40. Et finalement, nous en sommes au même stade pour le Brexit. Un rendez-vous est fixé le 19 juin à Bruxelles pour entamer la négociation. Qui va venir du côté britannique pour représenter le Royaume-Uni? Et par-delà la question de personne qui se pose, quel sera le degré d'autorité dont jouiront les négociateurs britanniques et quelle sera la ligne qu'ils vont suivre? Car beaucoup de commentateurs s'accordent à reconnaître que par-delà la défaite de Madame May et des conservateurs, c'est peut-être aussi une défaite de la ligne suivie du hard Brexit qui ressort en creux de cet échec électoral.
Béatrice Giblin.
Je pense effectivement que c'est une remise en cause sans doute du hard Brexit et que c'est peut-être d'ailleurs dans les difficultés qu'il y a des négociations avec le parti conservateur unioniste qui était pour un hard Brexit. Ce sont des fortement anti-européens. Et que là, ce que vous avez soulevé, je pense que c'est vraiment une remise en question de cette attitude, alors pour une fois que je qualifierais d'arrogante du côté britannique, en nous disant « on va imposer un hard Brexit au 27 ». Pensant sans doute que les 27 seraient plus faibles, moins unis, et que le rapport de force serait en leur faveur, puisque c'est quand même la deuxième économie ou considérée comme telle de l'Union européenne, et que donc tout le monde avait intérêt à, au fond, passer sous les fourches codines plus ou moins des Britanniques. Or, ça ne va pas être du tout le cas. Et par ailleurs, je crois qu'il ne faut pas non plus voir seulement dans ces résultats au fond, une sorte de contre-coup au hard Brexit annoncé par Theresa May. Je pense aussi que la situation économique et sociale en Grande-Bretagne, pour une grande partie de la population, est extrêmement difficile. Et que Corbyn a eu l'intelligence de faire un programme qui soit un programme de gauche, qu'on peut trouver trop à gauche, mais c'est pas notre la discussion ici, mais un vrai programme de gauche. Et quand on voit le nombre de jeunes qui sont allés voter et qui ne votaient plus, avec quand même un débat très important qui était celui des droits d'inscription à l'université, qui ont d'abord été déjà très élevés par Blair, mais qui l'ont encore été renforcés, et qu'il annonce, lui, la gratuité, comment il financera, c'est un autre problème. Mais il a pris, si vous voulez, dans ce parti des Labour très divisé entre ceux qui étaient, on va dire, les blairistes et qui étaient les élus et qui étaient contre Corbyn, par rapport à une base militante qui a choisi Corbyn et qui a attiré de nouveaux militants. Le Labour attire aujourd'hui des militants jeunes. C'est une situation qui est complètement à l'opposé. Enfin, nous, on peut dire on a Mélenchon qui les attire, mais c'est une situation, si vous voulez, que le Parti Socialiste Français n'a pas connue. Du tout. On n'a pas réglé ça. Et Corbyn réussit, alors qu'on disait, comme vous l'avez rappelé, au fond qu'il n'était pas bon, hein, que c'était un vieux gauchiste. Et bien ce vieux gauchiste, il a imposé un programme précis, économique et social, vous en avez rappelé un certain nombre de grands axes, et qui a mobilisé, je pense, qu'une partie vraiment de l'électorat anglais ou de la population anglaise est fatiguée de ce libéralisme qui produit des inégalités tellement plus fortes que chez nous. On rappelle sans arrêt peu de chômage en Angleterre, mais combien de pauvres.
Thierry Pêche.
Oui, alors juste une remarque concernant la métaphore de François, la métaphore footballistique. En 97, Jacques Chirac avait tiré contre son camp, mais pas contre son pays, avec la dissolution, vous y avez fait allusion. Parce que les gens qui avaient pris le pouvoir derrière étaient des gens responsables, qui avaient pendant 5 ans mené une politique dont le bilan était plus qu'honorable. Ça risque d'être un peu moins le cas dans la situation présente, puisque la confusion politique qui sort de cette élection est dangereuse pour le Royaume-Uni, parce que la grande question pour le Royaume-Uni, pour la génération suivante, c'est bien sûr la discussion sur le Brexit, et pour l'engager, il faut une légitimité indiscutable. Or, la légitimité de Theresa May ne sera pas discutable, puisqu'elle pourra être mise en cause par les 10 premiers venus, hein, 10 élus suffiront à faire dérailler le train conservateur, le train Theresa May, qu'ils soient d'ailleurs ceux des unionistes irlandais ou tout simplement dans les rangs même du parti conservateur, qu'une quinzaine de seniors disent « Écoutez, non, nous on n'est pas d'accord avec ce hard Brexit que vous nous proposez, l'enjeu est trop bon. » Donc Le train britannique a à nouveau déraillé. C'est pas la première fois. Il y a un an, il a fait un premier déraillement grave, et là un deuxième. J'avais dit il y a un an, ça sera l'équivalent dans l'histoire britannique de ce qu'a été la crise de Suez. Il y a une vraie perte d'influence, et je pense que je pourrais le redire aujourd'hui. Je pense que le Royaume-Uni est sur une pente de déclin international, européen. Deuxième remarque, je rejoins complètement ce qu'a dit Béatrice Gibelin sur la centralité des questions sociales dans le débat politique britannique. Parce qu'au fond, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Brexit. Mais dans la campagne politique, on n'a pas du tout parlé du Brexit. Et on réalise d'ailleurs rétrospectivement que le Brexit a été la muleta dans la tauromachie politique britannique il y a un an, que ça a servi à concentrer les regards, les aigreurs, les colères, mais qu'au fond, le sujet était ailleurs. Le sujet, c'est quoi? C'est qu'effectivement, la purge libérale, parce que c'est ça la politique britannique depuis 20 ans, la purge libérale a produit des inégalités fantastiques, Incomparable avec ce qu'on connaît chez nous, mais attention, parce que chez nous on en a de belles aussi, mais dans des proportions qu'on ne peut pas imaginer quand on vit en France. Les géographes, je parle sous le contrôle de Béatrice, appellent en plaisantant Londres Singapour sur Tamise, signifiant par là que Londres serait une quasi-principauté extérieure au Royaume-Uni, dont le maire d'ailleurs vient de demander le droit d'émettre lui-même des régularisations, hein, dans la perspective du Brexit, parce qu'il sait très bien qu'il y a dans sa métropole du Grand Londres énormément de Français, d'étrangers, qui, s'ils s'en vont, vont poser un problème majeur à l'économie de l'agglomération. Hein. Donc il y a Londres, mégapole unique, contrairement à ce qui se passe en France, où quand même on a une métropole plus distribuée sur le territoire, et le reste du monde britannique. Bon, et cette fracture-là, elle est très profonde. J'ajoute que, pour ne rien arranger, le choix du Brexit commence à produire des effets économiques qui accélèrent ces inégalités. Parce que le premier effet du Brexit, ça a été une dévaluation de la livre de 15%, hein, face à l'euro. Bon, ça veut dire que, dans les mois qui ont suivi, mais ça s'est accéléré récemment, l'inflation sur les produits de grande consommation s'est accélérée de façon très significative. Et là, sur le premier trimestre 2017, c'est particulièrement net. Donc les consommateurs britanniques commencent à sentir les conséquences de la décision qu'ils ont prise eux-mêmes il y a un an, et pour de mauvaises raisons. Si on regarde les flux de capitaux, juste un dernier commentaire économique, vous savez qu'il y a un mouvement entrant de flux de capitaux, de rapatriement en réalité de capitaux vers l'Europe aujourd'hui. Ces flux de capitaux, il y a fort à parier, il y a quelques indices qui permettent d'ailleurs de le suggérer, en tout cas, ces flux de capitaux, ils vont choisir préférentiellement l'Europe continentale aujourd'hui. Donc les Britanniques sont vraiment dans une très mauvaise situation. Alors, un petit espoir est né, mais il sera bien précaire, hier, je crois, des parlementaires conservateurs et des parlementaires travaillistes ont dit que Theresa May ne pouvait pas aller à la négociation, à la plus importante négociation britannique pour les années qui viennent, avec cette majorité chancelante précaire, et qu'il fallait qu'elle jette les bases d'un consensus national multipartisan sur cette question, quitte à en rabattre sur le hard Brexit. Alors, c'est pas facile à faire, mais je comprends que des Britanniques en éprouve le désir, et si j'étais britannique, je crois que je serais de leur côté.
Le passé politique de Mme May ne laisse pas supposer qu'elle soit très disposée, ni politiquement, ni sur le plan de son tempérament, à des consensus de cette nature. Sylvie Kaufmann.
Oui, je voudrais revenir sur cette malédiction qui semble frapper les chefs du Parti conservateur britannique, chaque fois qu'ils prennent une décision qui paraît extrêmement audacieuse. Et rappelez-vous qu'on salue quelquefois nous-mêmes, quand Theresa May a convoqué ses élections anticipées le 18 avril, au moment où elle était au zénith de sa popularité dans les sondages, tout le monde a dit c'est un coup de maître, elle fait ça à un moment le plus opportun possible, son opposition est totalement inexistante. Non, Thierry fait des gestes de négation, je ne cite personne. Je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'on l'ait dit autour de ce micro, certainement
je pas.
Je crois
pas
qu'on
ne
se trompe jamais ici.
Et donc, voilà.
Mais c'était.
Tous les 29 février.
C'était le retournement. La rapidité du retournement de cette situation britannique, comme avec David Cameron il y a un an, est vraiment spectaculaire. Et aujourd'hui, cette pauvre Theresa May, on n'a personne. Elle se trouve dans une situation totalement humiliante. Quand vous pensez que son slogan c'était Strong and Stable Leadership, fort, un leadership fort et stable, et elle est maintenant aujourd'hui tout le contraire de tout ça. Elle n'est plus ni leader, ni forte, ni stable. C'est assez terrible. Alors est-ce qu'on va assister à la fin de mai en juin, je ne sais pas, mais la question en tout cas est légitime. Il peut se passer plein de choses aujourd'hui, mais je voudrais essayer d'expliquer définir les ressorts de ce retournement et de ces bouleversements très très profonds dont on ne mesure pas encore tout à fait, je crois, l'ampleur. Il y a un premier facteur qui est la question de la place du Royaume-Uni dans le monde. Vous l'avez un peu évoqué les uns et les autres. Je crois que ce problème est assez central. C'est un problème que tous les pays actuellement, tous les grands pays se posent en raison des bouleversements de la planète. et des rapports de force, mais finalement, les Européens dans l'Europe continentale, on est tous reliés par cette Union européenne qui a plus de logique pour la France, l'Allemagne ou même les petits pays que pour le Royaume-Uni qui a toujours eu une place à part. Les États-Unis sont une hyperpuissance, même s'ils se posent des questions sur leur rapport au reste du monde. La Chine est en pleine ascension, à sa propre logique. Les Britanniques ont toujours eu un réseau de questions qui est beaucoup plus complexe à résoudre sur leur lien avec le reste du monde. Il y a aussi l'effet de la mondialisation sur la Grande-Bretagne. Vous parliez tout à l'heure de Singapour sur Tamise. Quand vous pensez à cette ironie de l'histoire, l'Empire britannique, Singapour n'était même pas un sujet de l'Empire britannique puisque c'était au sein de la Malaisie. Et cette petite cité-État, cette petite île est devenue tellement puissante que maintenant la Grande-Bretagne serait le rêve en modèle. C'est quand même assez extraordinaire comme retournement. Voilà. Et donc le Brexit est devenu, en effet, je ne sais pas si c'est une muleta, mais en tout cas une sorte de prétexte. Et rien n'est résolu aujourd'hui puisque, comme vous l'avez dit, ça n'a pas été au centre de la campagne. Donc on n'est pas plus avancé. Les Britanniques, en tout cas, ne sont pas plus avancés. Et puis, un autre facteur, c'est cette vague d'insurrection électorale auquel on assiste depuis plus d'un an. D'ailleurs, les Britanniques ont été les précurseurs. Si on met à part le cas de la Pologne et de la Hongrie, qui sont des démocraties post-totalitaires, donc un petit peu particulières, Mais le Royaume-Uni, avec ce référendum du 23 juin, a lancé cette vague des insurrections électorales qui s'est poursuivie avec l'élection de Trump, avec ensuite plusieurs scrutins en Europe et notamment chez nous. Donc on a là une volatilité de l'électorat qui se confirme avec cette élection. On parle peut-être d'une autre élection possible pour si vraiment la Grande-Bretagne se révèle ingouvernable. C'est une des hypothèses en cours, qu'il y ait à nouveau une élection générale en Grande-Bretagne dans quelques mois, ce qui voudrait dire que les Britanniques seraient appelés à voter pour la troisième fois en 18 mois. Donc on aura, je pense, encore des retournements. Alors voilà, on peut avancer des causes rationnelles à ce résultat de l'élection britannique. Il y a eu la mauvaise campagne personnelle de Theresa Trump qui s'est... c'est un lapsus tout à fait mal formé parce que si Trump a un alter ego en Grande-Bretagne, je pense que c'est plutôt Boris Johnson que Theresa May. Mais donc, elle s'est révélée une piètre oratrice. Elle a refusé le débat télévisé. Tout ça a certainement joué. Vous avez cité cette taxe Alzheimer qui est une bourde énorme. Essayer de faire financer les dépenses de la vie, les dépenses vieillesse avec les propriétés immobilières des personnes âgées, c'est totalement absurde. Elle a dû faire demi-tour. Et il y a eu la bonne campagne de Corbyn qui était donnée comme mort-vivant au départ et qui a effectivement jouer à fond à gauche, et c'est très intéressant. En fait, c'est le phénomène Bernie Sanders qui a trouvé une illustration plus réussie ici en Grande-Bretagne. Et puis il y a le réveil des jeunes. On parle d'un youthquake, hein, puisque c'est un séisme cette élection qui c'est tous ces jeunes, les 18-24 ans, qui s'étaient endormis au moment du Brexit et qui se sont réveillés le matin du 24 juin en disant mon Dieu, qu'est-ce qui se passe. Voilà. Mais je crois que tout ça peut reflète vraiment la fureur post-2008, post-crise de 2008. Et quand vous parlez des problèmes socio-économiques, on y est tout à fait. Ce sont les conséquences, on a là les conséquences sociologiques et politiques de cette crise très profonde qu'on n'a pas encore totalement fini de mesurer avec la révolte des classes moyennes.
Ne perdons pas de vue que l'alliance de Mme May avec ses Irlandais risque de perturber beaucoup la situation en Irlande et entre les deux Irlandes, et que derrière ça, il y a aussi l'Écosse qui aimerait beaucoup re-voter pour son éventuelle indépendance. François Bujon de l'État.
Alors, plusieurs petites choses en vrac. La première, c'est que Sylvie a raison de souligner la lassitude électorale, la lassitude du corps électoral britannique. S'ils vont aux urnes de nouveau à l'automne et à l'hiver, ce n'est pas la troisième fois, c'est la quatrième fois en deux ans, puisqu'ils y sont allés en 2015 pour l'élection Cameroun. Législative, oui, Cameroun, puis pour le référendum en juin 2016, puis de nouveau cette fois-ci en juin 2017, ce serait la quatrième fois. C'est une première remarque. La seconde, c'est qu'il y aurait un parallèle à faire, je pense notamment, Béatrice Giblin a souligné la proposition de gratuité des études, entre Jeremy Corbyn et Bernie Sanders dans la dernière élection américaine. Je crois que voilà deux vieux de la vieille, pour reprendre une expression souvent utilisée contre eux, qui ont fait campagne en sortant pratiquement de nulle part, qui ont réussi à susciter un vif intérêt chez des jeunes électeurs qui d'habitude ne votent pas, et ceci avec des propositions de gauche. C'est juste pour souligner cela. Troisième remarque, Philippe, vous avez mis le doigt sur un point dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent, qui est celui de l'unité du Royaume-Uni. C'est quand même un des grands désastres du Brexit et du choix de M. Cameron pour le référendum a été de mettre en péril l'unité du Royaume-Uni. Alors, bien entendu, tout le monde pense à l'Écosse en disant cela, et cette fois-ci, je dois dire d'ailleurs que l'un des bienfaits de l'élection, si j'ose dire, pour l'unité du Royaume-Uni, c'est que le parti nationaliste écossais a subi un revers, ils ont quand même perdu une vingtaine de sièges au bénéfice des travaillistes, et que du coup, la perspective d'un deuxième référendum sur l'indépendance éventuelle de l'Écosse semble reculer. Mais par contre, le sujet irlandais, vous avez tout à fait raison, vient sur le devant de la scène, avec les unionistes qui arrivent au gouvernement, ce qui ne plaira pas aux autres partis irlandais. Et l'un des principaux sujets du Brexit, c'est le rétablissement d'une frontière, effectivement, entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc ça, c'est vraiment porter le sel sur la plaie que de faire entrer, je crois, un parti irlandais au gouvernement. Enfin, un dernier point sur Singapour on the Thames. Je crois que si l'on remonte dans l'histoire économique britannique, ça fait près de 40 ans qu'en réalité, en promouvant la place financière de Londres, les autorités britanniques successives, qu'elles soient conservatrices ou travaillistes, ont contribué à saper le bien-être économique du Royaume-Uni. La cité de Londres, avant tout, Uber Alles, c'est tout à fait contraire aux intérêts, bien compris, de l'économie britannique, et les deux risquent de souffrir du Brexit.
Béatrice Giblin.
Il y a une remarque aussi qu'on peut faire, c'est que ce parti d'extrême droite qui était UKIP, qui a porté complètement le discours pour le Brexit, c'est volatilisé, évaporé. Ou presque. Bon, évaporé. Alors évidemment, Nick Farage, son leader, une fois que le Brexit a eu la majorité, a dit, ben voilà, moi j'ai fait mon travail, je me retire de la politique et c'est terminé. Donc ils ont un problème de leadership très, très net, c'est bien évident. Mais néanmoins, les problèmes sociaux liés aussi à une présence immigrée très importante, eux n'ont pas disparu. Et j'allais dire la classe populaire blanche britannique qui se sent aujourd'hui déclassée par une classe moyenne d'origine immigrée qui elle est en ascension sociale, c'est un problème qui reste très important. Donc on n'en a pas fini non plus en Grande-Bretagne avec cette question-là, même si UKIP aujourd'hui semble être effacé et l'est d'une certaine façon complètement de la vie politique. Mais je crois qu'il est là. La deuxième chose qui me semble important, vous avez parlé aussi bien sûr du parti nationaliste écossais qui a un réel revers, et ce qui est intéressant, c'est un revers non pas au bénéfice des travaillistes mais au bénéfice des conservateurs.
Un peu au bénéfice des travaillistes.
Oui, un peu, mais plus au bénéfice des conservateurs que des travaillistes néanmoins. Et ça, pour moi, c'est un signe intéressant. En fait, le gros succès qu'ils avaient eu aux élections qui leur donnaient, je crois, 53 sièges sur 54 ou presque, ou 55, était une anomalie. On revient à quelque chose de plus normal. Ils représentent un gros tiers des élections, les indépendantistes. Ils ont donc encore un socle important. Mais c'est vrai que cette percée quand même des conservateurs en Écosse prouve que on n'est pas au fond prêt à jouer l'indépendance de l'Écosse, et que l'union du Royaume-Uni reste quand même quelque chose de tout à fait important.
Thierry Pêche. Moi, je vais revenir sur les votes insurrectionnels ou les insurrections électorales dont parlait Sylvie Kaufmann. On a une espèce de cycle atlantique de votes Brexit, Trump, la France dont on ne peut pas parler aujourd'hui, et à nouveau la Grande-Bretagne, Pays-Bas, bon. Et dans tous ces pays, on voit bien que le moment électoral est un moment anxiogène, parce que les choses peuvent déraper. Et parfois elles dérapent, et sur les exemples que je viens de donner, au moins deux, elles ont vraiment dérapé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans chacun de ces pays, il y a une accumulation d'exaspération, de colère, d'impatience sociale considérable. Et la question qui se pose aux politiques, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on le snob, ce qui a été le choix du Parti démocrate, je crois, aux États-Unis, malheureusement, la famille Clinton, hein, parce que c'est comme ça que c'était perçu, considérer que tout ça n'était pas prioritaire. Est-ce qu'on le détourne sur un objet qui n'est pas central? C'est le choix britannique. On dit, voilà, le problème, c'est l'Europe. Non, le problème, c'est pas l'Europe. L'Europe peut poser des problèmes, mais le problème central britannique n'est pas l'Europe. Est-ce qu'on décide d'en faire autre chose? Ce qui est le cas français, je ne m'exprimerai pas aujourd'hui dessus. Mais c'est ça la question. Et au fond, le sentiment que renvoie la situation britannique aujourd'hui, c'est l'immense médiocrité de ces élites politiques. On a fait des complexes autrefois par rapport aux élites britanniques. Elles sont très médiocres. Elles sont très mauvaises. Elles sont dans l'incapacité de proposer autre chose à leur pays que la régression frileuse sur l'isolationnisme et l'insularité britannique, qui n'a aucun sens dans le monde même que les Britanniques ont contribué à construire depuis 20 ans. Ils ont été l'une des puissances exportatrices de la mondialisation ouverte et financière. On a rappelé la place de la cité, mais la cité, c'était d'abord la city, c'était d'abord le pouvoir financier. Donc, je crois que vraiment, ce qui est préoccupant aujourd'hui dans plusieurs pays européens, c'est la grande médiocrité des élites politiques.
Je vous remercie. Vous avez rappelé, Thierry, que nous ne pouvons pas parler de sujets français. Sylvie Kaufmann a un dernier mot dont la rapidité va nous foudroyer.
Non, je voulais juste souligner le changement d'humeur sur l'union, entre le Royaume-Uni et les pays européens sur la question du Brexit, parce que on se trouve aujourd'hui, alors je vais aller très vite, mais dans une situation où tout d'un coup les Européens se disent mon Dieu, mais les Britanniques vont peut-être nous dire que finalement ils ne veulent plus partir. Or, s'il y a un an, nous étions totalement déstabilisés, catastrophés par cette volonté de cette décision surprise du retrait britannique. Maintenant, non seulement on s'y est habitué, mais on s'y est préparé. On est en mode psychologique tout à fait. On attend, on est dans les starting blocks. Voilà, the clock is ticking, comme on dit. Voilà, l'horloge tourne. Et maintenant, on a des signaux. Voilà, finalement, on va peut-être rester. Et Bruxelles, je ne sais pas si vous avez suivi les tweets des responsables de Bruxelles ces derniers jours, mais c'est vraiment, il y a un mouvement de panique. Non, s'il vous plaît, restez où vous êtes.
Je voudrais quand même dire que si nous séparons des Britanniques, il ne faudrait pas que nous nous fassions l'Europe et si le Brexit a lieu, il ne faudrait pas que nous nous séparions de la Grande-Bretagne. Il n'y a pas de pays dont nous ayons plus besoin. Il n'y a pas de pays dont la littérature ne soit plus familière. Il n'y a pas de pays dont les héros ne soient pas autant les nôtres. Robin des Bois, Winston Churchill, Sherlock Holmes et tout un tas d'autres. Et je pense qu'il faudra prendre garde à ne pas confondre le pays et son gouvernement. Comme Thierry Pechelat l'a rappelé tout à l'heure, nous ne sommes pas autorisés à parler de la situation politique intérieure sous quelque forme que ce soit, et je vous propose, l'actualité d'ailleurs l'aurait imposé en tout état de cause, que nous nous intéressions au Qatar. L'émirat gazier subit un blocus terrestre de son voisin saoudien depuis lundi. Les Émirats arabes unis, l'Égypte, le Bahreïn, le Yémen et les Maldives ont imité Riyad et rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar. Ils reprochent à Doha de soutenir des mouvements terroristes tels que les Frères musulmans, l'État islamique ou Al-Qaïda, ainsi qu'une trop grande proximité avec l'Iran, la puissance régionale rivale. Cette crise intervient 2 semaines après un voyage du président américain Donald Trump en Arabie Saoudite, où il avait appelé les États de la région à lutter contre le terrorisme et à tarir les sources de financement. Le Qatar a affirmé avoir été victime d'un piratage de son agence de presse officielle 2 jours après cette visite. Des fausses informations auraient été diffusées prêtant au cheikh Tamim Al-Thani des propos favorables à l'Iran, au Hamas et au Hezbollah. Information immédiatement reprise par les médias saoudiens, égyptiens et émiriens. Donald Trump a dans un premier temps salué par des tweets l'initiative de l'Arabie Saoudite, il s'est félicité des effets immédiats de sa visite et il a déclaré que cette crise marquait, je cite, peut-être le début de la fin du terrorisme. Le secrétaire d'État Rex Tillerson a tempéré la position du président des États-Unis et appelé à un allègement du blocus qui gêne l'action militaire des États-Unis dans la région et la campagne contre l'État islamique. Donald Trump a réitéré vendredi ses accusations contre le Qatar à qui il a reproché d'avoir historiquement financé le terrorisme à un très haut niveau, avant de proposer sa médiation. Le ministre des Affaires étrangères allemand, Sigmar Gabriel, a déploré un blocus lourd de conséquences pour la population locale et pour l'économie allemande. Le Parlement turc a voté le déploiement de forces militaires sur le territoire de son allié qatari. L'Arabie Saoudite a publié vendredi une liste de 59 personnes et 12 organisations liées au Qatar et au service d'un programme suspect de l'Émirat, exiger leur expulsion et fermer les bureaux saoudiens de la chaîne Al Jazeera, qu'elle accuse de complaisance envers l'idéologie islamiste. Doha a dénoncé des accusations sans fondement et refusé de modifier la ligne éditoriale de sa chaîne d'information. Le ministre des Affaires étrangères du Qatar a affirmé que l'Émirat avait les moyens de tenir éternellement face à la stratégie mise en place par ses voisins et conditionné à une levée du blocus toute rencontre entre Donald Trump et le cheikh Tamim Al-Thani. Sur cette question, Sylvie Kaufmann.
Alors nous voilà plongés dans les mystères de l'Orient compliqué, et là je crois qu'on est vraiment plongés dans ces grandes profondeurs. J'ai un collègue qui est un excellent spécialiste du Moyen-Orient, ce qui, je l'avoue humblement, n'est pas mon cas, même s'il m'arrive de m'y rendre, et qui, quand il a épuisé tous les arguments rationnels et toutes les explications logiques, finit par lever les bras au ciel en disant « This is the Middle East, my friend ». Donc, essayons de trouver quelques logiques dans ce Middle East compliqué. Il faut, je crois, reprendre le contexte politique qui est celui lancé par les printemps arabes de 2011, dans lesquels le Qatar a joué un rôle par l'intermédiaire de sa chaîne de télévision Al Jazeera, qui a donné largement la parole à tous les rebelles, ce qui a profondément indisposé les émirs et les familles régnantes de la région, au premier rang desquelles celle d'Arabie Saoudite. Il y a aussi le contexte général de cette rivalité très profonde entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui se dispute l'hégémonie de la région, et le Qatar étant considéré comme trop ouvert vis-à-vis de l'Iran par l'Arabie Saoudite. Il y a aussi une jalousie, je crois, enfin un agacement, disons, de la part de l'Arabie Saoudite et de ses voisins vis-à-vis de ce minuscule pays dont la famille, je crois que le nombre de Qataris, de sujets de ressortissants Qataris est de 200 000 personnes. 200 000, donc 200 000, ouais. On parle en Arabie Saoudite, il y a quand même 20 millions d'habitants, et qui joue dans une catégorie bien largement supérieure à ce que lui permettrait notamment sa taille à la fois en territoire et en population, puisque c'est un pays qui a des intérêts qui, grâce à ses ressources gazières, notamment a des participations nous on connaît surtout le Paris Saint-Germain, n'est-ce pas, mais je crois que le fonds souverain qatari, qui est de plus de 330 milliards de dollars, a permis d'acquérir des participations dans Volkswagen. Les Qataris détiennent 12,5% de Volkswagen, pour en donner qu'un exemple. Il y a ce contentieux au fond qui est une crise qui couve depuis longtemps vis-à-vis du Qatar de la part de ses voisins, et qui, je crois, a été précipité par deux événements que je décrirai comme la chasse au faucon et la danse du sabre. Alors, la chasse au faucon, ça a été révélé par le Financial Times. Vous savez que les gens du Golfe sont très épris de chasse au faucon, et un groupe de Qataris, 26, dont 9 membres de la famille royale, s'est égaré en Irak dans une chasse aux faucons. Et malheur en a pris, puisqu'ils ont été kidnappés par des milices, je crois, chiites. Enfin bon, ça, nous replongeons dans les mystères de l'Orient compliqué. Mais ils ont été détenus 16 mois, et pour les libérer en Irak. Et pour les libérer, apparemment, le Qatar a versé, dit le Financial Times, une rançon d'1 milliard de dollars. Le Qatar dit que c'est beaucoup moins, mais enfin, je pense qu'on parle quand même de sommes très impressionnantes. Et ça a exaspéré les Saoudiens, qui disent, voilà, vous financez le terrorisme comme vous l'avez toujours fait, et ça ne peut plus durer. L'autre événement, la danse du sabre, c'est l'arrivée de Donald Trump en Arabie Saoudite. Et c'était son premier voyage à l'étranger, c'était sa première destination, l'Arabie Saoudite. Ça a été une véritable fête, notamment avec cette fameuse danse du sabre. Je vous recommande recommande, si vous ne l'avez pas vu, d'aller regarder sur les chaînes YouTube et autres. Ça vaut le spectacle. Il y a eu aussi cette scène du président américain avec le roi d'Arabie Saoudite autour d'un globe illuminé. Enfin voilà, il y a eu des scènes proprement étonnantes qui ont finalement poussé. Je crois que les Saoudiens se sont dit maintenant finalement on peut y aller. On a les États-Unis derrière nous et on peut déclencher l'épreuve de force avec le Qatar. Alors les États-Unis maintenant qui ont longtemps été exaspérés aussi par cette ambiguïté du Qatar qui finalement joue quand même sur tous les tableaux, se trouvent dans une position invraisemblable puisqu'on a à la fois à nouveau la Maison Blanche qui tire d'un côté, le Pentagone et le Département d'État qui tire de l'autre. Il ne faut pas oublier que quand même le Qatar abrite le centre de commandement américain pour la région, que c'est de sa base aérienne au Qatar que partent les avions qui mènent des frappes aériennes contre l'État islamique et qu'il y a juste 10 000 militaires américains au Qatar. Donc, que va-t-il se passer? Je pense que François va nous le dire.
François Bujon de l'État.
Non, parce que je n'ai pas de boule de cristal et que là, dans cette région du monde, le cristal est encore plus opaque que dans d'autres, je le crains. Mais je dirais que la crise est très sérieuse. Il faut la prendre au sérieux. C'est une première chose. Mais tout n'est pas clair dans cette affaire, parce que la crise vient de loin en réalité. Bien sûr, elle est soudaine, là, et nous allons revenir sur les causes de sa soudaineté, mais elle vient d'assez loin, puisque le Qatar, finalement, depuis son origine, a toujours voulu prendre une position très originale et très indépendante. Rappelons qu'au tout début des années 80, il a refusé de faire partie de la Fédération des Émirats Arabes Unis, ce qui a été très mal perçu par les autres Émirats, et il a cherché à jouer sa partition en solo depuis le début, avec d'ailleurs pas mal de virtuosité, mais en prenant aussi beaucoup de risques, puisqu'il joue en solo en matière de politique étrangère, puisqu'il a une politique étrangère attrape-tout, un peu funambule, qui lui permet de dialoguer avec tout le monde, puisqu'il a développé son soft power, comme on dit de nos jours, avec une influence financière considérable dans tout le reste du monde, et parce qu'à travers la voix, à travers Al Jazeera, qui est quand même un de ses atouts majeurs, il est le porte-parole aussi d'un islamisme militant dans l'ensemble du monde arabe. Donc c'est un pays qui occupe énormément de place et je dirais une place inversement proportionnelle à sa superficie et à l'importance de sa population. 200 000 habitants, dit-on, dans laquelle il y a des Qataris de fraîche date et le revenu par tête le plus élevé au monde. Il faut quand même s'en souvenir. Bien. Alors quand je dis que cette affaire vient de loin, c'est d'abord pour cette raison-là, mais c'est aussi parce qu'il y avait eu une première crise en 2014, on a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui, mais pendant plus de 8 mois, l'ensemble des monarchies arabes du Golfe avaient suspendu les relations diplomatiques avec le Qatar, rappelé les ambassadeurs, et il a fallu 8 mois et des concessions importantes du côté du Qatar pour que les choses s'apaisent un peu. Mais tout au long de ces dernières années, on a bien vu que le Qatar dérangeait. Il a pris des positions sur les printemps arabes qui étaient dans l'ensemble favorables aux insurgés contre les pouvoirs établis. Il a défendu l'Iran et il entend continuer d'avoir avec l'Iran des relations de bon voisinage qui s'expliquent par le fait que l'Iran et le Qatar partagent le même gisement gazier considérable qu'on appelle North Dome du côté de la frontière maritime qatari et South Pars du côté iranien, mais le Qatar maintient avec l'Iran des relations qui se traduisent d'ailleurs aujourd'hui par le fait que l'Iran lui apporte une aide humanitaire et alimentaire, et puis surtout par le fait que Doha a offert l'hospitalité à un certain nombre de dirigeants arabes en exil, qu'il s'agisse de l'ancien leader du Hamas, par exemple, qu'il s'agisse des leaders des frères musulmans, car c'est tout à fait important pour toutes les autres monarchies qui sont ouvertement en guerre avec les frères musulmans, qu'il s'agisse même des chefs talibans, dont on oublie de dire qu'ils habitent à Doha, avec le consentement d'ailleurs général des Américains, des autorités de Kaboul, etc., etc. Donc voilà, ça vient de loin, mais c'est arrivé d'un seul coup et dans des conditions vraiment très peu claires. Sylvie a parlé de l'affaire révélée par le Financial Times, de la chasse aux faucons et du versement d'une rançon, mais il y a eu autre chose, il y a eu une cyberattaque qui est maintenant tout à fait avéré et qui est à l'origine de fausses nouvelles dans lesquelles on a prêté au nouvel émir du Qatar, l'émir Tamim, des propos qu'il n'a pas tenus. Il y a des témoins qui l'attestent. Donc ça, c'est une cyberattaque dont les origines ne sont pas claires, mais tous les regards se portent vers l'Est, comme d'habitude. Il y a la visite de Monsieur Trump, qui suffit à déclencher des catastrophes partout où il arrive, et qui là, en suscitant la proclamation d'une sainte alliance anti-iranienne, a du même coup crucifié le Qatar, ou en tout cas certainement encouragé les autorités saoudiennes. Et donc le facteur Trump, l'influence de nouveaux hommes forts, parce que le prince Mohammed bin Salman en Arabie Saoudite, comme le prince Mohammed bin Zayef aux Émirats Arabes Unis, sont des représentants de la nouvelle génération qui entend vider un vieil abcès. Et les griefs, ils sont bien réels. Les frères musulmans, Al Jazeera, l'Iran.
Béatrice Giblin.
C'est une affaire sérieuse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Avec une situation où l'Iran est quand même, on dit, la rivalité ancienne, constante de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. Mais cette rivalité n'est pas, en fait, si ancienne que ça. L'Iran a longtemps tenu, par son importance et sa démographie. Enfin, c'est 28 millions d'habitants en Arabie Saoudite, c'est plus de 70 millions en Iran, sur un très grand territoire, avec de très grandes ressources, une immense civilisation. Je voudrais choquer personne ici, mais la civilisation, si vous voulez, perse, iranienne, comparée aux nomades bédouins de l'Arabie Saoudite, ça fait pas vraiment le poids. Bon. Donc, cette rivalité-là, elle est d'une certaine façon récente. Et pas oublier que la création de l'OPEP, c'est une initiative du Shah. Hein. C'est lui qui pense qu'il faut faire un rapport de force. Ça me semble tout à fait important. Donc, vouloir jouer l'affrontement avec l'Iran, c'est ça qui rend la situation extrêmement dangereuse. Parce que l'Iran, c'est, de mon point de vue, véritablement la puissance régionale qui le redevient. Ce qui s'est passé avec la théocratie iranienne y a mis un terme. Mais si on prend des temps plus longs, inexorablement, c'est l'Iran qui sera cette grande puissance régionale. Deuxième point qui me semble important, on n'en a pas dit un mot, c'est qu'est-ce qui se passe pour Israël avec cette histoire ? Parce qu'on pourrait se dire, au fond, Israël, ça fait un peu ses affaires, cette histoire-là, d'une certaine façon. Et au fond, ça fait ses affaires parce que on a l'Iran qui est mis comme le danger majeur, et donc l'union contre l'Iran, c'est fort bien. Des Arabes divisés, c'est toujours bon à prendre. Tant qu'à faire. Les relations plus ou moins secrètes sur le plan du renseignement qu'ont les Israéliens avec un certain nombre d'États sunnites du Golfe Persique sont réelles aussi et vont donc continuer dans ce sens. Mais je pense qu'il y a un aspect qui peut être très très dangereux, c'est-à-dire que la situation du Hamas et donc de Gaza, qui va faire les frais parce que le Qatar soutient et finance beaucoup à Gaza, si on n'a plus, j'allais dire, cette petite possibilité pour le Hamas de tenir, il va se retourner vers qui ? Il va se retourner vers l'Iran. Or l'Iran, c'est déjà le cas, mais ça va l'être encore plus. Et je pense que la situation à ce moment-là pour Israël n'est pas si simple que ça. Et les coups et les contre-coups, parce que si l'Orient est compliqué, c'est vraiment dans ce système de coups et contre-coups constant.
Thierry Pêche.
Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces matières, mais ce qui me...
Il ne vous a pas échappé que cette émission est composée entièrement de gens qui ne sont spécialistes de rien. Ce qui leur donne...
Oui, mais on est plus ou moins incompétents, et là, je suis dans la zone élevée d'incompétence quand même. Et malgré tout, je vais me risquer avec beaucoup de prudence à quelques arguments. Ce qui me frappe, c'est l'agilité du Qatar. Quoi qu'on pense de ce qu'il fait, c'est un confetti démographique. Hein. Bon, là, ça a été rappelé, c'est tout petit, etc. Mais ce sont des gens très agiles. Dans le domaine du soft power, ils sont quand même les seuls dans la région à avoir capté l'attention du monde, organisé le regard porté sur leur région. structuré même l'interprétation qui pouvait être donnée de certains événements. Al Jazeera n'a pas été simplement une chaîne d'information internationale, ça a été la chaîne des printemps arabes. Et d'ailleurs, la réduire à une chaîne islamiste militante, ce serait trop rapide. Bien sûr qu'il y a ça.
Il ne faut pas la réduire, mais elle sert de relais.
Elle sert de relais, oui. C'est tout à fait exact. Elle sert de relais à toutes ces composantes du fondamentalisme musulman de cette région. Mais elle sert de relais aussi à beaucoup d'autres choses. Donc c'est un canal extrêmement puissant. Et c'est une réussite qatari de ce point de vue-là. Bon. Que les autres ne l'ont-ils fait, si vraiment ça les dérange? Bon. Deuxièmement, alors que l'horizon d'achèvement de la rente pétrolière est chaque année plus visible, plus perceptible, du fait des problèmes climatiques, écologiques, du progrès des renouvelables, de la tendance qui va croître dans le monde financier à affecter les ressources fossiles d'un coefficient de risque à moyen et long terme plus élevé, pour toutes ces raisons, les pétromonarchies savent qu'elles n'auront pas toujours le bénéfice de cette rente. Et parmi ceux qui l'ont le mieux compris, il y a le Qatar. Le Qatar a réalloué des placements massifs. C'est des milliards de dollars. Sylvie a rappelé le volume de puissance de feu financière du fonds souverain qatari. Vous avez cité Volkswagen, le PSG en France, c'est des symboles, ça fait partie du soft power, cela dit. Mais en réalité, le Qatar a réalisé des placements qui gèlent beaucoup la diplomatie des puissances européennes à son égard. Parce que chacun sait ce qu'il risque à être trop dur avec le Qatar. Et du coup, que ce soit Paris, Berlin, on est d'une très très grande prudence à l'égard de ce qui se passe. Pas simplement parce que l'Orient est compliqué, la danse du sabre et tout ça, là, tout le film d'aventure qu'a décrit Sylvie. Mais parce qu'on y a des intérêts de plus en plus marqués. Alors que de l'autre côté, les grandes puissances de l'OPEP ont été incapables, infoutues, de faire en sorte que le prix du baril remonte un petit peu. Ils ne tiendront pas longtemps avec un baril autour de 50 dollars. Hein. Ils ne tiendront pas longtemps. L'Arabie Saoudite a 10 ans devant elle, pas plus. Donc, et l'Arabie Saoudite, c'est 28 millions de citoyens. C'est aussi une immense fonction publique de gens qui travaillent très peu et qui dépendent directement de ces revenus.
C'est lui, Kaufmann.
Oui, juste pour souligner... pour simplifier l'affaire, l'entrée en scène de la Turquie, qui a d'ailleurs une petite base militaire aussi au Qatar, depuis, je crois que la décision 2016. A été faite assez récemment, voilà, et qu'il y a, je crois, 150 militaires, mais 300. Qui a promis maintenant d'en envoyer plus, voilà. Erdogan a essayé de proposer ses bons offices au début de la crise. Il a appelé les dirigeants du Qatar, d'Arabie Saoudite, la Russie, le Koweït, les frères sunnites, et puis ça n'a pas marché, donc finalement il a mis son poids dans la balance et pris le parti du Qatar. Donc on a un élément de complexité supplémentaire parce que la Turquie, si le Qatar s'aligne, risquerait de se retrouver très isolé au Moyen-Orient.
Je vous remercie, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je voudrais l'introduire en recommandant un ouvrage dans la collection Dans la tête 2. Le premier était celui Dans la tête de Vladimir Poutine que nous avions signalé ici aux éditions Actes Sud. Là, il s'agit de la tête du pape François. C'est Nicolas Tenaillon qui est l'auteur, qui est un professeur de philosophie, qui avait déjà écrit un livre assez amusant. Je dois dire que c'est extrêmement, ces ouvrages qui sont courts, denses, très bien informés et fort intelligents, avec une capacité à mettre en perspective toutes les composantes de la personnalité du pape, qui sont extrêmement nombreuses, diverses et contradictoires, et que le pape d'ailleurs reconnaît lui-même comme tel, et sans doute une intelligence de ce que sont les jésuites. Là, il y a quelque chose qui d'ailleurs pourrait, mais on peut à peine parler de politique intérieure aujourd'hui, mais enfin, je soutiens qu'on peut aussi lire le nouveau président de la République française, non pas à travers son école, l'École nationale d'administration, mais à travers son lycée, c'est-à-dire le lycée de la Providence à Amiens, lycée jésuite, qui fut d'ailleurs aussi celui dans lequel il rencontra son épouse, qui a enseigné, puis qui a ensuite enseigné à Paris, à Franklin, et je pense que la formation jésuite dans cette ambition de formation totale qui est la sienne, est quelque chose
sans
qui est extrêmement...
Franciscaine, Philippe.
l'influence franciscaine du président de la République. Non, vous voulez dire du pape.
Sans l'influence franciscaine qu'on trouve chez le pape.
Oui, enfin, c'est un peu... Mais bref, cet ouvrage fait très bien le point sur les différentes influences qui ont formé ce pape. Béatrice Gible.
Moi, j'ai une brève, on va dire, citoyenne. Nous et les autres, des préjugés au racisme. Il y a une très belle exposition au Musée de l'Homme. Et il y a un catalogue qui a été publié par La Découverte. Et c'est une exposition et un catalogue qui est utile. Il est toujours bon de rappeler, surtout dans un moment où le conflit de classe devient un conflit ethno-racial dans notre pays, que le racisme, il faut lutter contre, que c'est aussi une construction culturelle, sociale, économique, politique. C'est très bien fait. C'est accessible à beaucoup et on n'en a jamais fini. Et une fois encore, je pense que ce serait utile d'emmener beaucoup, beaucoup de gens à cette exposition et à regarder ce
feuilleté catalogue. Le musée du Quai Branly n'a pas aboli le musée de l'homme. Loin s'en faut. Thierry Pêche.
En écoutant votre bref, Philippe, je me disais qu'il pourrait y avoir un dans la tête de Donald Trump. Ce serait peut-être le plus bref de toute la collection, mais que ça mériterait d'être écrit. Philippe, est-ce que vous aimez Marseille?
Ah, comment j'aime Marseille. C'est la seule ville pour laquelle j'ai fait.
Oui, la réponse est oui. Pareil. On est dans les brèves. Voilà. Soyez bref.
Est-ce que vous
aimez, est-ce que vous aimez la musique?
Je vous répondrai pas. Oui, j'aime la musique.
Vous aimez le slam?
J'aime le slam, bien sûr. Je suis
alors
un vieux camarade de grand corps.
Vous allez adorer le dernier album d'Ahmad Jamal, Marseille, qui est en partie enregistré avec Abdelmalik, le slammer. Vous savez que le pianiste de Pittsburgh, grand pianiste de jazz, qui disait la musique classique américaine, ce que certains appellent le jazz, aime beaucoup Marseille et il a consacré un album à cette ville. C'est absolument magnifique et vous trouverez trois fois le même morceau, Marseille donc, dans trois interprétations différentes. Une très libre d'Ahmad Jamal où il faut écouter les percussions, une tout aussi libre interprétée par Abdelmalik où il faut écouter le piano d'Ahmad Jamal et une tout à fait libre aussi où il faut écouter le velours de la voix de la chanteuse béninoise Agossi.
François Bujon de l'État.
Marseille est une des portes de la Méditerranée, donc une des portes de l'Orient, et je reviens à l'Orient puisque nous en avons parlé il y a quelques instants pour recommander la lecture du livre d'Henri Laurence, Les Crises d'Orient, 1768-1914. Il s'arrête malheureusement, si j'ose dire, avec le début de la Première Guerre mondiale et ne va pas jusqu'au dépeçage de l'Empire ottoman induit par le traité de Sèvres, mais c'est un livre très utile pour se replonger dans les origines de beaucoup des crises d'aujourd'hui. Il est écrit un peu comme Pierre Renouvin, jadis, écrivait ses ouvrages d'histoire diplomatique qui ont jadis bercé mes études, d'où mon indulgence pour le livre d'Henri Laurence.
Sylvie Kaufmann.
Alors moi, ce n'est pas à Marseille que je vous emmène, bien que ce soit ma ville natale, mais en Chine, où ce premier roman de Haï, c'est le nom de l'auteur, qui est un ancien policier reconverti dans le journalisme, comme quoi ça mène à tout, Le jeu du chat et de la souris.
À condition d'en sortir.
C'est un livre très dur, sinistre, un peu sordide, mais qui est très intéressant parce que c'est un roman qui raconte le meurtre d'une jeune fille par un de ses collègues, un ami du lycée, à coups de 37 coups de couteau, exactement, puis le procès, enfin l'enquête, puis le procès, tout ça est très déprimant, mais en même temps extrêmement révélateur sur la société chinoise d'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est très intéressant de le lire.
Je vous remercie, vous avez maintenant rendez-vous avec Alain Kruger pour On ne parle pas la bouche pleine, il reçoit Marc-André Sellos, qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle, et ils vont ensemble parler des centaines d'espèces de bactéries qui forment notre flore intestinale. Mais il semblerait que l'intestin soit le sujet d'un best-seller international. Et donc, ils vont avoir, Alain Kruger et son invité, un vif succès. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer. Réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain May. Je vous rappelle que l'émission du 25, donc dans 15 jours, aura lieu en public et en direct et que vous pouvez vous inscrire sur www.maisondelaradiosansseparation.fr. Et voilà, et c'est tout ce que j'avais à vous rappeler. Je vous souhaite donc un bon dimanche électoral.